Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On en voit.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Nous accueillons aujourd'hui la franco-vietnamienne Tran Thu Nha. Bonjour.
Bonjour.
qui est considérée comme la porte-parole de toutes les victimes de l'agent orange, qui est un herbicide ultra toxique. Donc, pour remettre un peu le contexte, c'était pendant la guerre du Vietnam où l'armée américaine a déversé 80 millions de litres de cet herbicide sur les forêts et les champs vietnamiens. Et donc, ça a provoqué des millions de victimes. Et ils agissaient dans le but d'anéantir la forêt où se réfugiaient les combattants Viet Cong et pour détruire les récoltes. Donc Nha, vous avez eu une vie très riche, vous avez été journaliste, militante, écrivaine, vous avez un diplôme de chimie. Donc en regardant un peu votre biographie, on a eu quelques difficultés pour vraiment vous présenter. Et on a l'impression que vous avez eu plusieurs vies dans une seule vie. Donc si vous deviez aujourd'hui vous présenter, qu'est-ce que vous diriez?
C'est vrai que... Tout d'abord, je vous remercie de bien vouloir me poser ces questions-là et puis de m'accueillir ici.
Merci à vous.
C'est vrai que ma vie est quand même très émouvante, très mouvementée plutôt. Et comme vous le dites, j'ai vécu plusieurs vies quand même. Et c'est le destin qui m'a mis sur ce chemin parce que... Déjà, j'étais devenue agente de liaison alors que je n'avais que 8 ans. Et puis après, j'ai fait la piste de Ho Chi Minh. Mais avant de faire cette piste-là, j'ai étudié à Hanoï et j'étais formée pour être chimiste. Ce qui est surprenant, c'est que tout ce que j'ai appris, je ne peux pas pratiquer. En tant que chimiste, je n'ai rien fait de la chimie, sauf que maintenant, je me bats contre la guerre chimique.
Oui.
Je n'ai jamais appris le journalisme. Et puis après, avec la guerre, avec la réalité, j'ai appris le métier et je suis devenue journaliste sans être formée. Et c'est maintenant, en tant que journaliste, que je me bats pour la justice, pour les victimes de l'agent orange, par exemple. Et puis après, je n'étais pas formée pour être enseignante. Et j'étais pendant 15 ans quand même directrice des écoles à Ho Chi Minh Ville, par exemple. Et puis après, je me suis jamais attendue d'avoir des problèmes avec la justice, alors que cela fait déjà 12 ans que je me bats pour la justice, pour que justice soit faite pour les victimes de l'agent orange, non seulement du Vietnam, mais aussi dans d'autres pays. Voilà, donc maintenant, je me présente en tant qu'une vieille femme âgée de 83 ans, déterminée pour aller jusqu'au bout de notre combat. Et notre combat, c'est le combat pour la justice. Alors, c'est comme quand on porte une bonne cause, une cause noble, il ne faut pas être découragé.
Oui, donc déterminée, mais aussi très courageuse. Et donc, en parlant de l'agent orange, justement, vous qui avez pu voir être témoin des conséquences, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles peuvent être les conséquences? On sait qu'on peut, enfin, vous y avez été exposé directement, mais vos enfants, par exemple, ont aussi eu une contamination plus indirecte. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les conséquences de cet herbicide?
Le crime de l'agent orange, c'est que ça a les séquelles continue à ravager non seulement la nature, mais l'être humain de génération en génération. Avant, on pensait que ça peut s'arrêter après 20 ans. Puis après, on a dit que c'est peut-être après 50 ans. Puis maintenant, on dit que même après 100 ans, peut-être, ça va pas arrêter, quoi. Parce que le poison est dans le sang des victimes de la première génération. Mais après, si le poison, ça rentre dans les ovules d'une femme enceinte, donc ça crée une malformation. Donc, c'est pour ça qu'il y a parfois dans une famille, il y a deux victimes et un autre qui n'est pas. C'est parce que les ovules, quand c'est seulement les ovules empoisonnés qui créent des malformations. Alors, à partir de la deuxième génération, on n'arrive pas à détecter la dioxine dans le sang. Mais les malformations se transmettent de génération en génération.
Oui. Donc, ça s'ancre beaucoup dans le temps. Et donc, il y a beaucoup de conséquences physiques, mais est-ce que... on peut aussi et psychologique, oui. Oui. Est-ce qu'il y a aussi justement des conséquences psychologiques et mentales, oui.
Bien sûr. Oui. Parce que quand on est handicapé physique, alors mais ça nuit quand même au cerveau. Alors c'est pour ça que même les victimes, les personnes handicapées physiques, mais si on veut leur donner une formation professionnelle, par exemple, c'est très, très dur. Parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas l'intelligence des personnes normales. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours que ce sont les personnes les plus malheureuses, les plus misérables d'une vie. Alors, moi, ils mènent une vie très, 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 très mal, quoi. Non, mais c'est pour ça que... au tribunal d'Evry, par exemple, après 4 heures de mensonges, à la sortie du tribunal, ils sont passés devant moi, les avocats et avocates aussi de la partie adverse. Alors, ils me regardaient, se demandant peut-être est-ce qu'on va la saluer ou non. Alors, je lui ai dit que je vous invite à aller au Vietnam. Je vous ferai rencontrer une seule victime. Alors, je pense qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus le cœur de défendre vos clients. Et c'est vrai, parce que si vous approchez, si vous rencontrez une victime, vous verrez qu'ils sont très malheureux.
Oui, et ça change à tout jamais la vision qu'on a de ces victimes. Donc, justement, vous avez rencontré beaucoup de ces victimes. Et est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont vraiment marqué et avec qui vous avez toujours contact aujourd'hui?
Moi, quand je vais au Vietnam, oui. Alors je fais presque le tour du pays. Je vais dans les centres d'accueil. C'est pour ça que les victimes me connaissent beaucoup. Non, mais moi, je les aime beaucoup, alors que certains ont peur de s'approcher d'eux, voyez. Et il y a aussi par exemple, il y en a plusieurs, mais je vous cite un exemple. Il y a une jeune fille qui est née avec un morceau de chair comme ça sur sa figure. Et on l'a déjà opéré une fois, mais ça repousse. Donc, la moitié du visage couverte d'une masse de chair comme ça, et une grande cicatrice qui sent très mal, très mauvais là, sur le crâne. Alors, sa mère l'a abandonnée à sa naissance, et son père était resté là pour s'occuper d'elle jusqu'à présent. Et même quand j'étais avec les cinéastes américains, par exemple, ils n'osaient même pas s'approcher d'eux. Et même les Vietnamiens, parce que c'est vrai que c'était affreux. C'était très malheureux de la regarder. et surtout que de s'approcher d'une personne qui est tellement mal formée comme ça. Mais elle, elle a le courage, elle vend des tombolas et elle vit sa vie aussi. Yeah. Donc elle m'appelle maman, mais c'est vrai que beaucoup de victimes m'appellent toujours maman ou bien maintenant la grand-mère.
C'est vrai que vous êtes la représentante de toutes ces victimes et c'est comme, pour elles que vous menez votre combat.
Et comme a dit notre avocat maître William Bourdon, il a expliqué aux journalistes que c'est le vent de l'histoire qui m'a menée sur ce chemin. Et c'est sur ce chemin que je marche et puis que nos avocats aussi avancent avec moi. J'aime bien cette expression.
Oui. Et justement, vous vous rendez souvent au Vietnam. Quel est le point de vue au Vietnam sur l'agent orange? Enfin, est-ce que la population, elle est informée et elle est consciente de l'enjeu que ça a? Je sais pas.
Le peuple, bien sûr, maintenant, il est bien informé. Au début, non. Au début, comme a parlé Angelica dans la pièce, là, même pour moi, là, on disait toujours que... parce qu'au Vietnam, on est un peu superstitieux et on pense que dans la vie, dans certaines vies antérieures, on a fait des péchés. Alors, c'est pour ça que, tout d'abord, les victimes ont été repoussées, surtout quand on donne naissance à un boule de chair ou bien à une personne handicapée. Ils ont été repoussés par tous les villageois. Mais maintenant, on sait que c'est le ravage du poison. Alors, on vient en aide, quoi. Mais le gouvernement aussi subventionne, pas beaucoup, mais subventionne aussi les victimes jusqu'à la deuxième génération. Oui, mais il y a aussi, ce qui est dramatique, il y a aussi des familles où il y a des filles qui ne sont pas très mal formées, qui sont à peu près normales, mais ils n'osent pas s'inscrire en tant que victimes de peur que la fille n'arriverait pas à avoir un homme, un époux. Donc... mais c'est très malheureux, mais ça fait très mal au cœur quand on parle de ça, mais c'est la vérité, quoi. Parce que quand on dit qu'on est victime de l'agent orange, alors les autres ont peur, et surtout que les filles n'arrivent pas, même pas à épouser un homme, quoi. Donc c'est pour ça que on garde le secret, on dit que bon, vaut mieux ne pas avoir une subvention, vaut mieux vivre pauvrement, mais que la fille arrive quand même à se fonder une famille.
Oui, c'est très triste parce que ouais, du coup, ouais. elle le cache toute leur vie.
Ouais,
et...
ouais, voilà.
Ok. Ouais. Et donc, l'agent orange a de nombreuses conséquences humaines, mais aussi environnementales. Est-ce que vous... Enfin, oui, quels impacts l'agent orange peut avoir sur la biodiversité et à quel point ça vous a touché, vous, de voir votre pays changer et détruit de toutes ces plantes, ces arbres?
Avec le temps, la verdure revient, les arbres repoussent, mais il y a toujours le poison dans l'eau, dans la terre. Donc, on ne peut pas changer d'habitat parce qu'on est ici, on vit ici, donc on peut pas, on n'a pas d'autre endroit pour vivre, quoi. Alors, c'est pour ça qu'on est toujours obligé de boire de l'eau, de manger la culture, les végétaux,
oui.
Alors, c'est pour ça que... même si on dit toujours que l'agent orange, le poison, diminue avec le temps, mais ça reste quand même que l'eau est toujours encore empoisonnée, que la terre, que la nappe phréatique est toujours empoisonnée, quoi. Alors c'est pour ça que les gouvernements américains, sans, sans reconnaître leur crime, mais il a déjà désintoxiqué, c'est ça le mot, un aéroport. Et puis, ils ont commencé à le faire aussi dans un autre. Mais l'aéroport qu'ils ont essayé de désintoxiquer, alors là, c'est parce que c'est près d'un port, d'un grand port, où tous les navires passent. Donc, il le fait. Bon, mais sinon, moi, je me bats aussi. Même s'ils n'arrivent pas à reconnaître, ils n'arrivent pas à avoir le courage de reconnaître leur crime, mais s'ils veulent bien venir en aide aux victimes de l'agent orange, c'est déjà très bien.
Oui, donc vous battez tout d'abord pour les victimes, ce qui est normal, parce que vous avez été directement touchée. Et justement, quand est-ce que vous avez eu réellement l'envie de vous saisir de ce combat et de parler au nom de toutes ces victimes?
Tout d'abord, au tribunal au tribunal d'opinion internationale en soutien des victimes de l'agent orange où j'ai témoigné, on m'a proposé d'intenter ce procès. J'avais presque 70 ans déjà, donc j'ai refusé, bien sûr. Mais après, on m'a dit que mais si je ne le fais pas, personne ne peut le faire. Parce qu'il y a uniquement moi qui rassemble ces trois conditions. C'est-à-dire que la France possède une loi permettant aux avocats français de défendre leurs citoyens contre un autre pays. C'est-à-dire que la France a une loi qui permet aux avocats français de faire des procès multinationaux. Donc, la deuxième condition, c'est que le plaignant, bien la plaignante, soit français, quoi. Je le suis. La troisième, parce que c'est un procès contre l'agent orange, donc je devrais être victime, donc je le suis. Alors, peut-être il y en a d'autres, mais pour le moment, on n'arrive pas à en trouver. Donc, c'est pour ça que j'ai tout d'abord refusé, mais quand on m'a expliqué ces trois conditions et quand on a dit que si je ne le fais pas, personne ne pourrait plus le faire et le crime serait à jamais enfoui dans l'oubli du passé, et alors qu'il y avait à ce moment-là déjà 3 millions de victimes, ce chiffre-là m'a effrayée, quoi. Donc ça m'a poussée à me mettre tout d'abord au combat, quoi. J'étais toute seule. Mais maintenant que 12 ans ont passé, de 3 millions, on passe à 5 millions de victimes. De 70 ans maintenant, j'ai 83 ans. Donc, il y a quand même une longue durée, là. Mais comme j'étais déboutée. Alors, avec nos avocats, on a déjà décidé d'aller au pouvoir en cassation. Alors, peut-être, encore une fois, je serai déboutée. Ça, ce n'est pas grave.
Et vous avez justement des nouvelles de ce pourvoi en cassation?
Pas encore.
Vous ne savez pas encore si
pas encore,
ça va être...
même, bon, mais... Si même ceux qui tiennent le droit en ses mains mais n'arrivent pas à avoir le courage de défendre la justice, alors que là, et puis si les firmes américaines veulent jouer contre la montre, contre mon âge, contre ma santé, mais vous savez que moi, maintenant, j'ai bien compris que notre mission, c'est de faire connaître le crime de la guerre chimique et arrêter toutes les guerres, les autres guerres aussi. Donc, si moi, je considère ma mission actuellement, ce n'est pas d'attendre le verdict de la cassation, parce que ça va encore durer beaucoup d'années.
Oui, la justice française, ça prend beaucoup de temps.
Je ne pense pas que je survivrai jusqu'à la fin, là. Mais c'est pour ça que je dis toujours qu'avec ma jeune armée, quand je disparaîtrai, ce serait la jeunesse qui va me remplacer. Alors c'est pour ça que notre devise, maintenant j'ai ajouté, avec Évry, après Évry, on a dit patience, courage, espoir, et puis maintenant j'ai ajouté encore détermination. Donc on est bien déterminé d'avancer. On va avancer jusqu'à la fin.
Et donc, en parlant de la jeune génération, vous aviez fait une interview au média Urbania il y a 3 ans où vous êtes adressé à nous, les jeunes, en disant « C'est à vous, les jeunes, de réaliser mon rêve ». Et donc aujourd'hui, vous êtes entretenu avec des lycéens. Et à quel point c'est important pour vous de transmettre ce combat à notre génération?
Tout à l'heure, j'ai dit une chose. La générosité existe dans tous les cœurs. Il suffit de pouvoir ouvrir ce cœur-là pour faire sortir la générosité. Et pour les jeunes de France, aujourd'hui, là, pour les lycéens, ce que j'ai dit aussi, c'est que... Ils sont très heureux. Ils ont beaucoup de bonheur pour vivre dans un pays. Bon, maintenant on peut pas dire que la France est en paix, mais quand même la vie est plus facile. Mais eux aussi, il faut que ils savent que toutes les guerres font du mal au peuple. Et donc il ne faut pas aimer la guerre. Il faut se battre contre la guerre. Et maintenant, je ne leur demande pas de se battre contre l'injustice pour les victimes de l'agent orange, mais déjà qu'ils aient la conscience qu'actuellement, les guerres qui ravagent d'autres pays là, sont aussi les guerres qui ravagent notre cœur. Donc, il faut qu'ils soient conscients qu'il faut se battre pour arrêter toutes les guerres.
Ok, et donc justement, en parlant de cette pièce, Nos corps empoisonnés, donc qui relate votre vie, est-ce que vous avez participé à l'élaboration de ce projet et...
Non.
Non.
Ils sont bien. Marine était déjà super. Angélica joue très bien. Donc, bon, mais vous savez que on s'est parlé deux fois, donc vous avez vu, là, parce que on s'est parlé entre amis, c'est pour ça que moi, normalement, je mets toujours un bandeau. Mais là, dans ce film, sur les images que vous avez vues, il n'y a pas de bandeau. C'est-à-dire, on s'est parlé entre amis et je ne savais pas qu'ils enregistrent. Donc, je n'ai pas vu. J'ai pas participé pendant toute la répétition. Je n'ai vu la première fois seulement à la répétition, la première fois avec les lycéens aussi.
Ah, donc c'était une grande surprise pour vous et,
oui.
Et vous étiez donc vraiment naturel dans les enregistrements qui sont joués dans la pièce.
Ouais, j'étais pas belle du tout aussi. Hein.
Oh non, ça c'est pas vrai. Et justement, quelles émotions vous avez eues en voyant cette pièce?
Non mais ça m'a beaucoup touchée. Parce que là, ça parle de ma mère, ça parle de ma grand-mère, et puis de ma fille disparue. Et Marine était très forte parce que j'ai 3 filles. Mais elle a toujours... c'est à la fille disparue qu'elle parle de ses 2 sœurs. Et puis ça continue comme ça pendant toute la pièce. Donc, mais ça, c'est plus... ça sensibilise beaucoup plus les cœurs, quoi. Parce que une personne disparue qui parle, comme ma mère qui parle, comme ma fille qui parle, alors que moi je suis vivante. Mes 2 filles qui restent sont vivantes, mais c'est la voix de ma mère, la voix de la sœur, de la fille aînée qui parle. Elle est très forte, Marine, en tant qu'auteure.
Oui, c'est vrai que c'est une pièce qui a été très bien construite et qui a été très, très émouvante et qui a bien retranscrit votre vie dans, à chaque étape.
Et aussi une partie de l'histoire du Vietnam aussi, avec les images. Oui.
Oui. Et est-ce que vous avez déjà eu des remises en question dans votre démarche, dans votre combat, et à des moments vous avez eu envie de renoncer parce que vous aviez l'impression que c'était peine perdue?
On n'a pas le droit. Mais... Quand je vois les regards des victimes qui dans ce regard qui reflète toujours l'espérance, l'espoir, même ils savent même pas ce que je suis en train de faire. Mais donc moi je pense que c'est une mission que les ancêtres, que la patrie, que Dieu me donne. Donc j'ai pas le droit d'être découragée ou bien de renoncer. Et ça c'est vrai. Et aussi sincèrement, vous, qu'est-ce que j'attends encore là, à 83 ans, voyez? Donc, mais depuis des années, je ne vis même pas ma vie personnelle. Je ne vis pas, je vis toute seule ici en France pour mener ce combat, alors que la tradition vietnamienne demande que les enfants s'occupent des parents âgés. Alors que moi, je reste toute seule ici, mes enfants sont très loin. Alors, une fois aussi, ma fille hurlait même, elle pleurait, elle dit, maman, tu sais pas que nous aussi, nous nous sacrifions pour ton combat. Oui, mais bon, je peux pas rentrer.
Oui, mais ils doivent être fiers de vous, vos enfants, depuis le Vietnam.
Et
courage aussi. Oui, oui. Mais, ok. Et bien, cette interview, on va vous laisser,
Mia. Yeah. C'est bon.
Et cette émission touche donc à sa fin. Merci beaucoup à vous, de nous avoir accordé de votre temps. Mm. Et vous êtes une femme très inspirante. Donc,
merci
beaucoup. Et on remercie aujourd'hui Oscar qui était à la technique. Bonne écoute.
Et c'était quoi? L'apérophonie. Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.